Au commencement était la parole, dit Jean. La parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Et nous entendons ici que les paroles sont esprit. C'est dire l'importance de la parole, ce que le protestantisme en particulier a souligné. La parole est puissante et agissante. Elle nous mène à Dieu. Ou plutôt, elle a le potentiel de nous mener à lui. Mais sur ce chemin, il y a des obstacles qui nous font trébucher, des scandales qui nous font repartir loin du Christ. Alors, comment la parole pourra-t-elle révéler, déployer son potentiel en nous? Le christianisme n'est pas vraiment une religion du livre. Nous ne fondons pas notre foi sur des écritures, mais sur la parole de Dieu vivante. Et la Bible est ambiguë. Elle est à la fois parole de Dieu et parole humaine. À la fois, nous pouvons dire qu'elle est sainte, donnée par Dieu, inspirée, et qu'elle transmet la parole de Dieu depuis 2000 ans. Et à la fois, lire la Bible peut aussi être dur. Les paroles que nous y trouvons nous paraissent de temps en temps dures et nous ne les comprenons pas toujours. Nous avons peur de trop bien les comprendre. Mais la parole ne se réduit pas à une suite de mots. Elle a besoin d'une personne pour la dire et pour l'expliquer. C'est pour ça que ce n'est pas juste un livre écrit. La parole est liée au souffle, à l'esprit. Concrètement, quand le livre est lu, la parole devient audible. Elle devient mouvement de l'air, vibration, souffle. Et en ce sens, elle s'anime, elle prend vie. Mais surtout, ce souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Il est spirituel, il est présence de Dieu. L'Écriture seule n'est rien. La parole seule même n'est rien. Je ne crois pas que des paroles guérissent ou que des paroles fassent vivre si elles sont déconnectées de Dieu, qui est leur source, leur interprète, leur chair, et c'est Dieu, au final, qui parle, qui guérit et qui fait vivre. Si facilement des paroles peuvent être mal interprétées. Il existe une conception simple selon laquelle Dieu aurait dicté mot à mot ses paroles, qui auraient été alors mises par écrit. Et ce serait la vérité parfaite, et il suffirait alors de l'exécuter à la lettre. Mais je crois que même le sens littéral n'est pas donné. Le langage, c'est un code pour communiquer un message. Et l'essentiel, c'est d'accéder à ce message au-delà du code, au-delà des mots. Souvent, les mots sont limités pour exprimer parfaitement la réalité, et en particulier des réalités célestes. Souvent aussi, nous parlons et le sens n'est pas compris par celui qui essaye de nous écouter et de nous entendre. Ici, Jésus a longuement dialogué avec la foule, les Juifs, ses disciples, dans la synagogue. Ils ont tous entendu les mêmes paroles, mais les uns les trouvent dures et s'en vont, et les autres y trouvent la vie et s'engagent à rester. Plus j'étudie la Bible, plus j'ai l'impression que le sens principal n'est pas le sens littéral ou historique, mais le sens figuré, le sens spirituel. Jésus vient de dire « Celui qui me mange vivra par moi ». Et nous ne sommes pas anthropophages. Il nous faut donc découvrir ce que veut dire Jésus par ces mots. En littérature, la figure de style de la métaphore est une comparaison où on a simplement supprimé le mot comme ou ses équivalents. Et alors l'auteur a fusionné les deux éléments comparés, ce qui donne une formule saisissante et déconcertante. Car au premier abord, c'est un paradoxe. Manger la chair du Christ. Le sens littéral est impossible, c'est un non-sens. Alors nous sommes amenés à chercher un sens au-delà. Chercher comment Jésus peut être pour nous un nouveau type de nourriture, une nourriture céleste. L'Antiquité aime bien ce langage métaphorique qui est poétique et concret. Alors que dans la modernité, nous aimons bien analyser, décortiquer scientifiquement, en séparant les éléments, dissocier. Mais souvent, c'est impossible. L'image se viderait de son sens, de son infinité de sens possibles par association d'idées et de connotations. Alors, pour comprendre au sens spirituel, comprendre par l'esprit, il faut justement que cela nous soit révélé par l'Esprit Saint. Si nous restons au niveau matériel et terrestre, simplement humain, la chair ne sert de rien. Mais c'est l'Esprit qui fait vivre. Les paroles de Jésus sont esprit et sont vie. Un lien très étroit s'établit donc entre Jésus-Christ, l'Esprit Saint, c'est-à-dire le souffle saint, la parole et la vie. Esprit, parole et vie. L'Esprit Saint a inspiré les paroles de la Bible et quand nous la lisons et que les mots reprennent vie et entrent en nous, c'est qu'il est là pour nous en révéler de nouveau le sens. Dieu a parlé aux gens de la Bible par le passé et Dieu nous parle de nouveau aujourd'hui par l'Esprit Saint, personnellement. Et quand nous disons que Dieu parle, c'est encore une façon de parler, car la parole de Dieu ne frappe pas tant nos oreilles que notre cœur, notre souffle, notre âme, notre cœur, notre centre spirituel. Dieu peut nous parler sans mots, sans que nous entendions des voix. Mais nous ne savons pas raconter l'événement qui est arrivé. Alors, nous disons simplement que Dieu nous a parlé. Quand nous sommes face à Dieu, sa parole prend sens, sa vie pleine nous entraîne. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Sans cela, sans lui, notre Dieu, qui est esprit, les mots de la Bible et de la foi peuvent sembler terriblement vides. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Oh oui, Père, donne-nous ton esprit, car ton esprit fait vivre. Avec lui, tout est différent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, nous a dit ce psaume 34. Pierre et les douze ont goûté, ont cru, ont découvert, ont compris par la grâce de l'Esprit Saint. Alors ils peuvent dire cette magnifique confession de foi, tu as des paroles de vie éternelle. Non pas des paroles dures, mais des paroles de vie éternelle. Et nous, nous sommes convaincus, nous connaissons que tu es le Saint de Dieu. Jésus s'est révélé à la fois comme vraiment divin et uni au Père, et à la fois comme celui qui se donne, qui donne sa chair pour la vie du monde. Et c'est difficile à comprendre cette union des deux, ce Dieu qui vient mourir sur la croix. Une grande tension oppose et associe la gloire et la souffrance. C'est là le scandale de la croix, la folie de Dieu contre la folie des hommes. Nous sommes face à un choix décisif et radical, dire oui ou non à Dieu. Nous positionner après avoir entendu la parole, parole dure ou parole de vie. Peut-être qu'il y a longtemps que vous avez répondu à cette question, mais souvenez-vous. Souvenez-vous de votre premier amour qui vous a mené au Christ. Et choisissez aujourd'hui si vous voulez vivre de sa vie toujours nouvelle et conclure une nouvelle alliance avec lui, lui redire oui. Beaucoup de gens quittent le Christ aujourd'hui. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? C'est la question que pose aussi Josué. Josué appelle les Israélites à se rappeler tout ce que Dieu a fait pour eux. La libération de l'esclavage, la traversée du désert. Et chacun peut répondre librement et personnellement. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Le choix paraissait un engagement exigeant et impressionnant, que tous ne semblaient pas capables de faire. Mais soudain tout s'éclaire. La vie dans l'esprit illumine tout. Et c'est une joie immense de suivre le Christ. Ce n'est plus seulement notre choix, notre liberté. Cela devient une évidence, celle de dire oui au don de Dieu qui nous a précédés. C'est une offre irrésistible. Parce que Dieu s'est révélé, parce que les paroles nous ont fait entendre une voix nouvelle, nous ont ouvert à la vie spirituelle et éternelle, la vie que nous avions toujours cherché, alors nous répondrons « Oui, nous avons découvert que tu es le Saint de Dieu et nous voulons entendre tes paroles, nous remplir de ta chair et de ton sang, de tout ton être, accueillir ton esprit et t'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre intelligence et toute notre force. C'est avec toi que nous voulons vivre, Seigneur. Amen. »